Vous écoutez RTL.
14h04 minutes sur RTL, c'est l'heure de la curiosité avec Thomas Hugues, Anaïs Bouton. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour Bénédicte.
Et merci. Alors aujourd'hui, Halloween oblige, hein, on va s'intéresser aux phénomènes inexpliqués, à l'étrange, aux cliquetis des chaînes, aux châteaux hantés, vers 14h30 sur RTL.
Tout de suite, Monsieur Moi sur RTL.
Émission L'heure début. Sacha Guitry.
RTL.
Raconter mes débuts, c'est déjà me faire faire un effort de mémoire. Mais la chose m'a été si aimablement demandée que j'aurais mauvaise grâce à me faire prier.
La curiosité est un vilain défaut.
Et puisque mes débuts d'auteur dramatique sont liés à mes débuts de comédien, je vais faire d'une pierre deux coups.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Je jouais sous le nom de Lorsay et je gagnais 10 francs par jour. Je ne les méritais pas d'ailleurs.
Cette voix traînante de Sacha Guitry. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est déjà la fin octobre, le temps passe trop vite. Mais heureusement, pendant une heure sur RTL de 14 à 15 heures, vous ne perdez pas votre temps grâce à la curiosité. On se la pète un peu, hein, n'est-ce pas, Anaïs ?
Un peu, mais en fait, c'est vrai que cette semaine, en nous écoutant, vous serez incollable sur les pouvoirs du corps humain, les traites de la République, les parfums, les géoglyphes ou le mystère de Jupiter. Donc on a raison de se la péter un peu. Et puis surtout sur le destin de Sacha Guitry.
Allez, c'est parti. Bonjour Christophe Barbier.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Bienvenue sur RTL, bienvenue dans la curiosité. Vous êtes journaliste, vous êtes passionné de théâtre, vous jouez même la comédie très régulièrement, je crois, tous les lundis au Théâtre de Poche à Paris.
Tous les lundis, 19h au Théâtre de Poche.
Et ben voilà,
le tour du théâtre en 80 minutes.
c'est une jolie promesse. Monsieur Moi, on a cité ça tout à l'heure, c'est l'un des surnoms, il y en a eu beaucoup, de Sacha Guitry. Est-ce qu'il était vraiment narcissique ?
On peut même prononcer Monsieur Moi.
Moi, c'est ça.
Non, il n'était pas vraiment narcissique. Ses détracteurs le traitaient de narcissisme, mais le narcissisme, c'est aimer se regarder dans un miroir, se refléter dans l'eau. Il n'aimait pas son image, il n'aimait pas les photos, il n'aimait pas poser. Il se trouvait pas très beau, il avait été gros dans sa jeunesse, il était assez complexé de ce côté-là. Ce qu'il aimait, c'était se montrer. Il était beaucoup plus exhibitionniste que Narcisse. Et dans cette exhibition, évidemment, il y avait deux publics pour lui qui comptaient. C'était les femmes qu'il aimait, et puis le public avec lequel il avait rendez-vous tous les soirs à 9h.
Alors Sacha Guitry, je l'appelle Sacha parce que je l'ai bien connu évidemment, et c'était une star, il savait jouer la carte people avant l'heure, c'est ça ?
Oui.
C'était quoi dans les années 30 en fait ?
Dans les années 20-30, c'est une fusion entre l'homme privé et l'homme public, c'est-à-dire il joue sa vie au théâtre, sa propre vie privée est une pièce de théâtre, il est dans les gazettes de manière internationale, il est Paris, ils sont Paris, parce que c'est le couple Guitry à ce moment-là, le couple Yvonne Printemps-Sacha Guitry. Ils vont à Londres, c'est un triomphe, ils vont à New York, on annonce The Guitrys, il y a même un illusionniste qui met sur son affiche, Sacha Guitry adore mon spectacle, alors que Sacha Guitry n'a jamais vu son spectacle. C'est vraiment un phénomène parisien, et Paris, c'était le centre du monde, le centre de la fête à l'époque. Beaucoup d'argent, beaucoup de fêtes, beaucoup de champagne, et puis évidemment, toutes les anecdotes de leur vie privée qui se retrouvent dans les gazettes People de l'époque.
People à fond.
À fond, à fond.
C'est l'un des premiers à le faire.
C'est un des premiers à le faire, c'est un des premiers à le subir aussi.
Oui.
Parce que quand tout va bien, quand c'est la fête, quand c'est votre bonheur qui s'étale, vous êtes ravis. Le mariage d'Yvonne Printemps et de Sacha Guitry, les témoins, c'est quand même Georges Feydeau et Sarah Bernard. Donc ça va. Mais quand ça se retourne contre vous, eh bien, c'est pas très agréable. Et quand Yvonne Printemps va roucouler avec Pierre Fresnay, évidemment, Guitry va trouver ça un peu moins sympathique de le retrouver dans les gazettes.
Et il le mettra dans l'une de ses pièces, forcément, puisqu'on en est à chasser quelques idées reçues à propos de Sacha Guitry. Est-ce qu'il était aussi misogyne qu'on le dit ?
Non, je crois pas.
Oh,
c'était pas un
féministe.
Non, c'était pas un féministe.
C'était un gros miso.
Non, c'était pas un gros miso. Je pense qu'il avait une relation aux femmes qui était d'une telle adoration, d'une telle idolâtrie, qu'elle en était archaïque, certes, c'est pas du tout un moderniste, c'est pas du tout un féministe, et qu'elle en était quand même touchante. Il considérait, lui, que s'intéresser autant aux femmes et à leurs défauts, pour en dire du mal, pour les taquiner, pour s'en protéger, c'était montrer l'importance qu'il leur accordait, et qu'il avait beaucoup moins de choses à dire sur les hommes que sur les femmes. Et pour lui, cette volonté de faire des mots d'esprit contre les femmes, cette volonté d'être piquant avec les femmes, celles qu'on va conquérir et celles qu'on a conquises, c'était une manière de montrer son amour. C'est le fameux paradoxe de son mot célèbre, je suis contre les femmes, tout contre.
Oui.
Voilà, donc on n'est pas dans la misogynie, mais on n'est pas dans le féminisme, parce qu'il ne comprenait pas que les femmes puissent revendiquer l'égalité.
Oui.
Pour lui, les femmes étaient des déesses, donc une fois qu'elles avaient séduit un homme, elles en étaient la propriétaire, et elles étaient couvertes de cadeaux. D'ailleurs, lui-même après avoir séduit des femmes.
La propriétaire ou la propriétaire ?
La propriétaire. La propriétaire.
Ah.
Oui, la propriétaire. Et donc, il couvrait de cadeaux ses épouses. D'ailleurs, Yvonne Printemps, quand ils ont divorcé, a réclamé le paiement de tous ses cachets, parce qu'elle n'avait pas été payée. Elle jouait avec son mari, elle n'était pas payée. Et le tribunal a considéré que les dizaines de millions de bijoux qu'elle avait reçus suffisaient comme rémunération. Vous voyez, la justice n'était pas très féministe non plus.
Christophe Barbier, vous publiez Le Monde, selon Sacha Guitry, aux éditions Talendier. Sagesse, aphorisme, mots d'esprit et perfidie. Tiens, voilà quelques perfidies sur les femmes.
N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement. Car si nous avions la franchise de nous avouer à nous-mêmes les raisons qui nous déterminent à prendre femme, je crois que nous serions le plus souvent surpris de ce qu'elles ont à la fois d'obscur, de puéril et de paradoxal.
Bon alors, Guitry, on le comprend, c'est Guitry et les femmes, c'est un roman en soi. Hein. Alors, il a été marié combien de fois, lui ?
5 fois. Charlotte Lisès, Yvonne Printemps, Jacqueline de Lubac, Geneviève de Serréville et puis pour finir Lana Marconi.
Et il était
coup de chapeau à Pascal Praud qui nous les a sortis de tête tout à l'heure pendant le passage d'antenne.
C'est vrai. Il était fidèle ?
Non, il n'était pas fidèle, il était lui-même infidèle, il a été trompé, il a été trompeur beaucoup. Non, il n'était pas fidèle. Il avait une espèce de moment d'extase dans la conquête, où là, une seule femme existait, celle qu'il voulait séduire. Il y avait ensuite une sorte d'état de grâce, et puis après, la vie de couple, la vie qui reprend le dessus. Et là, l'adultère arrivait assez vite. Dans les deux sens, hein, d'ailleurs, parce qu'un jour, il est assis dans un grand fauteuil en osier dans sa maison de campagne. Il y a un jeune ténor qui arrive, qui fait « Ouh, chérie !» Parce qu'il pensait que Charlotte Lisès, la première épouse, était toute seule. Et Sacha Guitry se lève et dit « Mais depuis quand tu m'appelles chérie ?»
C'est très drôle. C'est justement, Charlotte Lisès, ça ouvre à un autre chapitre de notre discussion, Christophe Barbier. La relation particulière, tumultueuse, riche entre Sacha Guitry et son père, Lucien Guitry, lui aussi, grande star, très grand comédien. On vous raconte ça dans un instant sur RTL.
Tout seul, enfin.
La curiosité est un vilain défaut.
La liberté.
RTL. Jusqu'à 15h.
L'exquise liberté, le silence absolu, le repos bien aimé, le calme où rien ne vibre.
Avec Anaïs Bouton.
Lorsque je fais tourner la clé, ce n'est pas moi qui suis bouclé, ce sont les autres que j'enferme.
Et Thomas Hugues.
Mais quelle voix, Sacha Guitry est dans l'œil de notre curiosité. C'est le journaliste Christophe Barbier, avec son écharpe rouge, qui nous en livre tous les secrets. Alors, on parlait de sa première femme, Charlotte Lisès. Il l'a rencontrée dans des circonstances très particulières. Elle a commencé quoi ?
Elle a commencé comme jeune comédienne qui, pour obtenir des rôles, des petits rôles, avait accordé ses charmes à Lucien Guitry, le père de Sacha. Oui, alors c'était une autre époque, évidemment. On n'était pas dans le mouvement MeToo à l'époque, mais c'était très classique pour les jeunes actrices de se sacrifier ainsi pour obtenir un rôle. Et puis, elle n'était pas contente d'avoir obtenu un petit rôle. Elle trouvait que Lucien Guitry la battait froid. Donc, quand elle a vu arriver dans le théâtre le fils, Sacha, elle a décidé de le séduire. Et ça a marché. Ça a donné une histoire d'amour qui a duré d'ailleurs une dizaine d'années.
Donc, c'est sa vengeance.
C'était sa vengeance d'abord. Oui. Et puis, il y a une vraie histoire d'amour ensuite entre Charlotte et Sacha. Elle disait, il est Sacha, je suis Sachate.
Et oui.
Et Cocteau les avait surnommés, ce couple, Sacharlotte.
Parce que c'était aussi un couple mondain.
Ah oui, c'est un couple
parisien,
mondain même. Qui s'est marié tout près d'Honfleur, en faisant croire qu'ils étaient malades, le maire est venu, ils étaient mourants, et puis ils ont sauté du lit en faisant sauter le champagne. C'était la fête. Ils étaient jeunes. Guitry, à ce moment-là, avait une vingtaine d'années. Mais évidemment, Lucien Guitry a très mal apprécié ce chassé-croisé. Et donc, il s'est fâché brutalement avec les deux. Avec Charlotte, mais avec Sacha aussi.
Et donc, ça veut dire que le père et le fils, Lucien et Sacha Guitry, ne vont plus se parler, se croiser pendant combien de temps ?
13 ans. 13 ans de brouille entre 1905 et 1918. 1905, Sacha Guitry est un jeune acteur dans la troupe de son père. Il se fait licencier parce qu'un jour, il oublie sa perruque chez un ami, il rentre avec un casque grec qui lui tombe sous les yeux parce qu'il avait plus de perruque. Son père n'apprécie pas du tout, le licencie. Et en même temps, il y a cette histoire d'amour où chassé croisé de Charlotte Lisès. Fâcherie, brouille, définitive. 13 ans, 13 années pendant lesquelles Guitry ne va cesser d'écrire des textes en pensant à son père.
C'est pour ça qu'il joue souvent des personnages beaucoup plus âgés que son âge de l'époque.
Exactement. Et par exemple, en 1918, il joue De Bureau, le fameux mime du 19e, qui transmet à son fils l'art du mime. Et il joue ce rôle en pensant que c'est un rôle écrit pour son père. C'est d'ailleurs là qu'ils vont se réconcilier. Parce qu'entre-temps, Charlotte s'est éloignée, Sacha est tombé amoureux d'Yvonne Printemps, Lucien vient un jour regarder clandestinement dans une loge de bureau, et le lendemain, il invite son fils à déjeuner. Et ils se réconcilient.
Ah oui, alors on l'aura compris, leur relation était quand même très tumultueuse. Donc, est-ce que Sacha Guitry aurait pu faire autre chose que du théâtre, en fait ? Est-ce que il a été un cancre persévérant ? Il a été viré de combien de pensions ?
Ah oui, il a fait 12 pensions, ouais. Il a été viré des 11 premières, et la 12e, le directeur est venu voir son père en disant « Je virerai bien votre fils, mais il a disparu, donc je ne peux pas le virer. » Donc c'était vraiment un cancre absolu. Son père avait fini par lui dire « Mon fils, tu as 17 ans, tu es en 6e, tu vas finir par passer le bac en 6e, te marier en 6e et mourir en 6e. Donc on va arrêter la scolarité. Ouais. » Faut dire que Guitry, Lucien, avait commencé dans la vie par enlever son fils, qui était à la garde de sa mère, et à 5 ans, il l'a enlevé et il l'a emmené à Saint-Pétersbourg, où Lucien Guitry était une star.
Oui, il courait les cachets.
Exactement, il faisait passer des saisons entières là-bas, il gagnait des fortunes. Et qui était le parrain de Sacha Guitry ? Le tsar. C'est pour ça que Sacha s'appelle Sacha et non Alexandre. Et donc Guitry, à 5 ans, se retrouve à déjeuner à côté du tsar Alexandre III. Et donc voilà, c'est ça l'enfance de Guitry. Et son père faisait faire tous ses costumes en deux tailles. Sa taille à lui et la taille enfant pour Sacha. Donc on comprend le mimétisme et on comprend que Sacha ait poursuivi la figure du père toute sa vie.
Mais ça pouvait être violent, Christophe Barbier, parce que je crois, si j'ai bien lu votre livre Le Monde selon Sacha Guitry chez Talendier, que le père Lucien va lui interdire à un moment d'utiliser son nom.
Oui, sur quand scène. Il l'embauche, chez lui, il n'y a qu'un Guitry, et tu t'appelleras autrement. Et donc il prend le pseudonyme de Jacques Lorset. Il est très mal payé, je crois qu'il gagne 10 ou 15 euros par représentation, 10 ou 15 francs pardon, par représentation, oui. 1 500 francs pour son père chaque soir. Donc il est humilié quand même par son père comme jeune comédien. Et il n'est pas très bon comédien. Et ensuite il va tenter sa chance dans une autre troupe, ça va être une catastrophe. Un soir il ouvre la fenêtre pour respirer l'air par la fenêtre du décor. Ben, c'est un décor, donc derrière il y a le mur. Il se cogne contre le mur, il tombe sur scène, le public est mort de rire. Ouais. Il se fait chasser de cette troupe. Il décide d'arrêter le théâtre. Puis quelques années après il devient auteur. Et puis un jour il y a un de ses acteurs qui est malade. Et lui, l'auteur, il est le seul à connaître le texte par cœur. Alors il monte sur scène, il remplace. Et il en conclut qu'il peut très bien jouer. Il dit « Attention, je ne dis pas jouer très bien, je dis que je peux très bien jouer. » Et là, ça y est, c'est parti, mais il ne va plus jouer que ses textes. Guitry, ensuite, n'a jamais joué autre chose que ses propres textes.
Comment ça se passe, leur retrouvaille ? Vous nous l'avez dit, il y a ce mot que son père lui envoie. Ils vont travailler ensemble après ?
Oui, ils ne se séparent plus. Non seulement ils travaillent ensemble, mais ils s'écrivent. Ils s'envoient des mots tous les jours, ils passent se voir, ils deviennent fusionnels. Ils vont, dès 1919, créer une grande pièce que Sacha avait en tête pour son père, Pasteur, l'histoire de Louis Pasteur. Mmh. Ils vont enchaîner avec un sujet de roman, avec des tas de pièces, jusqu'en 1925 et la mort de Lucien Guitry. Ils ne vont plus se séparer, ils vont être un couple fusionnel. En fait, Guitry était marié avec 5 femmes, mais celui dont il était le plus proche, c'était son père.
Oui, d'ailleurs, l'une de ses femmes disait « on forme un couple à trois » d'une
Exactement.
Certaine façon.
Elle avait l'impression d'avoir épousé deux Guitry, parce que Lucien était toujours là. Et même après la mort de Lucien Guitry, Sacha Guitry s'est installé dans sa maison, avenue Élysée-Reclus, un immense hôtel particulier, détruit depuis. Il a mis les costumes de son père, il a repris la bibliothèque de son père, il est devenu une sorte de clone de son père. Donc il y avait quelque chose de psychanalytique. Et quand il dit que, n'ayant pas eu d'enfant, je suis toujours resté un fils, quand il ajoute deux Guitry dans un siècle, ça suffisait, j'ai pas voulu en faire un troisième, il y a quand même ce complexe vis-à-vis de son père. Il s'en est jamais, jamais délivré. D'ailleurs, quand il meurt en 57, Sacha Guitry, sur le mur, il y a le portrait de son père. Les derniers regards, c'est pour le portrait de son père.
Qui a dit que de lettres on écrit que pour leur post-scriptum.
Homme politique.
Homme politique, non.
Artiste Acteur. De scène.
Non, pas spécialement.
La curiosité est un vilain défaut.
Que de lettres n'écrit-on même si...
Oui, bah on a compris que de lettres n'écrit-on que... Voilà, ça va.
Oh ben, feriez mieux de dire ça à Sacha Guitry, vous.
RTL.
Sacha Guitry.
Ah ben voilà.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Sacha Guitry ou l'art du bon mot, une référence pour tous les amoureux du théâtre français et la bonne réponse qui permet à Isabelle Mergault de marquer des points en grosse tête. Christophe Barbier, on entend là depuis tout à l'heure, grâce à la mise en note de notre réalisateur François Touchard, quelques-unes comme ça de ses répliques, de ses saillies, de ses bons mots de Sacha Guitry. Vous en avez une préférée ? Vous en avez une qui vous accompagne
Oh, il y en a beaucoup. Permanence. Elle est en retard, donc elle va venir. C'est beau, ça. Ouais, c'est en beau. Amour, le plaisir que je prends est secondaire. Ma sensualité se satisfait du plaisir que je donne. Ou pour changer de registre, ce qui est merveilleux avec Mozart, c'est qu'après un morceau de Mozart, le silence qui suit est encore de lui.
C'est Sacha Guitry qui a dit ça. Magnifique phrase. Et ça peut aussi clouer le bec à un opposant, à quelqu'un qui vous agace dans une conversation du Guitry.
Ah oui, oui, oui.
Il y a
oui,
quelques
oui,
bonnes
oui,
répliques
oui,
comme
oui,
ça.
Il y a quelques bonnes répliques. Oh, bah, il y a des répliques sur les cocus, bien entendu. La pire vengeance avec un homme qui vous a pris votre femme, c'est de la lui laisser. Pour les femmes, ce qu'elle avait de plus profond, de loin, c'est son sommeil. Ou bien, il était si parfaitement laid qu'il devenait beau dans un miroir déformant. Voilà, il y a beaucoup de petites piques comme ça.
Alors comment il trouvait ses formules? Est-ce qu'il les notait sur un petit
carnet? C'était un boulimique de travail. Il écrivait toute la journée, On connaît une grosse centaine de pièces, 120, 124 pièces de Guitry, mais il y en a des dizaines qui se promènent, qui sont inédites, qui sont inachevées, et il griffonnait ça sur des brouillons. Il était en permanence à la recherche de situations et de bons mots.
Et est-ce que toutes ces petites phrases comme ça étaient intégrées à ces pièces de théâtre?
Toutes ces petites phrases étaient intégrées, et parfois à plusieurs pièces de théâtre. Il y en a qu'on retrouve de pièce en pièce, qu'il recyclait un petit peu.
Christophe Barbier, on va raconter, parce qu'on doit faire des choix, et évidemment, la vie, le destin de Sacha Guitry est passionnant, foisonnant, riche, et donc on va raconter maintenant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il fait, Guitry, pendant la Seconde Guerre mondiale?
Il aide des tas de gens. Il sort de Drancy, par exemple, Tristan Bernard et son épouse. Il aide Paul Valéry, le vieux Paul Valéry, à se nourrir, à trouver du tabac à cause du rationnement. Il rend des services. Mais il participe aussi à la fête de Paris. Il va à des soirées avec des officiers nazis, on trinque, il a du champagne. Les Allemands l'adorent.
Il continue de jouer au théâtre.
Il est patriote, mais pas résistant. Patriote, c'est-à-dire que pour lui, la France est sacrée. Il n'a jamais accepté que ses pièces soient jouées en Allemagne, mais pas à cause des nazis, à cause de 1870 et de l'Alsace-Lorraine. Son patriotisme, c'était celui-là. Oui. Mais il n'est pas résistant. Et il considère que lui, son métier, c'est de faire des pièces de théâtre, donc il fait des pièces de théâtre. Et il continue à mener une vie mondaine. Et c'est ça qu'on va lui reprocher.
Et il fait des erreurs aussi. Il publie un texte pro-Pétain très tardivement.
Il est totalement aveugle sur la politique. Ouais. Il était allé rencontrer Mussolini en 1932, tout ça par curiosité. Et il publie un texte qui s'appelle De Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, 1429-1942. Et en 1944, il va à Vichy pour présenter le livre au maréchal Pétain, et le maréchal lui dit, vous savez, vous ne devriez pas l'intituler comme ça, vous allez avoir des ennuis. Et Guitry est aveugle sur cette situation. Et évidemment, quelques mois plus tard, quand on libère la France, eh bien, il apparaît comme quelqu'un qui est du mauvais côté. D'ailleurs, le journal américain Time avait fait la liste des Français à fusiller, il était dessus. Donc, il s'en tire finalement pas mal.
Il est arrêté très tôt, avant
la libération de Paris, le 23 août. Comme il dit, la libération, j'en ai été le premier prévenu. Oui, puisqu'il a été arrêté, il est interné à la conciergerie, puis à Drancy. Oui. Après être passé par le Veldiv, il fait 60 jours de prison, des conditions très très humiliantes. Mais
qu'est-ce qu'il dit à l'un de ceux qui l'arrête et qui lui dit vous êtes inculpé d'intelligence avec l'ennemi? Qu'est-ce qu'il répond?
En effet, je n'en ai pas manqué. Voilà. Il ne peut pas s'empêcher de faire un bon mot, même si ça le dessert. Alors les faits vont le servir puisque l'instruction va se dérouler. On va appeler des témoins par la presse. On va faire passer des encarts de presse.
Fois, ouais.
Ceux qui ont à se plaindre de Monsieur Guitry, manifestez-vous. Et rien ne va tenir. Et finalement, il va être libéré. Il va y avoir un deuxième procès qui lui va prendre près de 3 ans pour indignité nationale. 3 ans pendant lesquels il a le droit ni d'écrire, enfin pas de publier, pas de jouer, pas de faire cinéma. Donc il est exilé dans sa propre vie, exilé dans son propre Paris.
Mais est-ce que finalement il va être réhabilité ?
Réhabilité, oui, par la justice. Et puis, très lentement, par le public. Ce qui va en fait le réconcilier avec le public, c'est le cinéma. C'est le cinéma, parce que d'un seul coup, il va s'emparer de cet art. Il avait commencé avant la guerre. Dès 1915, il avait fait un premier petit film avec les moyens du bord. Et il devient une sorte de génie du cinéma. Si Versailles m'était compté, si Paris m'était compté, il fait débuter des acteurs qui s'appellent Jean Poiret et Michel Serrault, Philippe Nicot, il fait tourner Michel Simon. Et il a beaucoup de succès avec ses films jusqu'à sa mort.
Mais il va retrouver le succès qu'il avait avant guerre ?
Pas le même succès. Le succès au cinéma est réel. Le succès sur scène s'éteint tout doucement. Il arrête de jouer à partir de la fin 53. Il n'est plus en état physique de le faire. Et il ne retrouvera jamais le succès populaire. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais plus la figure parisienne qu'il a été avant la guerre. On est dans les années 40-50. Hein. Donc c'est le jazz, c'est Saint-Germain-des-Prés. Guitry, c'était pas ça. Guitry, c'était les années folles. Et ça, c'est bel et bien terminé.
Il est un peu dépassé par l'époque ? Est-ce qu'on peut dire ça ?
Il est dépassé par une partie de l'époque. Il est dépassé par le théâtre de l'époque. Le théâtre de l'absurde arrive, un théâtre de combat, Camus, Sartre. Guitry n'est plus du tout à la hauteur de ce théâtre-là. Même Roussin, même Manouille sont des auteurs qui vont être plus profonds que lui. En revanche, il n'est pas dépassé par le cinéma. Et donc, il va garder le lien avec le public jusqu'à aujourd'hui, avec des films qui sont d'une drôlerie incroyable. Vous revoyez aujourd'hui Les Perles de la Couronne, ou en remontant les Champs-Élysées, ça n'a pas pris une ride. Et c'est ça qui a fait un peu la postérité de Guitry.
Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites, dites-le à une autre femme.
RTL.
C'est ça qui est assommant avec de jolies femmes. Tout de même pas épouser des laiderons uniquement pour avoir la paix, hein ?
La curiosité est un vilain défaut, avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Sacha Guitry !
Voilà la réponse d'Isabelle Mergo.
Un extrait de la pièce La vie à deux et ces citations de Sacha Guitry qui font le bonheur de Laurent Ruquier et des grosses têtes. On est toujours avec le journaliste Christophe Barbier, passionné de théâtre et de Sacha Guitry. Est-ce que c'était un homme d'argent, Sacha Guitry ?
C'est un homme qui aimait dépenser de l'argent. L'argent devait circuler. Son père, Lucien Guitry, à propos de l'argent, lui disait « Fous-toi de ça ». Il considérait Guitry que la richesse, c'était non pas amasser de l'argent, mais dépenser de l'argent. Donc il dépensait. Ça ne l'empêchait pas de négocier. Il rentrait dans les bijouteries avec une femme, il offrait un bijou, mais il négociait le bijou devant elle, sans scrupule. Et ça l'empêchait pas non plus de collectionner. C'est-à-dire qu'il dépensait l'argent, sauf pour les œuvres d'art. Là, il plaçait son argent. Il avait constitué un véritable musée dans sa villa, qui a d'ailleurs été visité. Il était ouvert au public à la fin de sa vie. Et quelques mois avant sa mort, sa fortune, uniquement à Paris, est estimée à 92 millions de francs, plus une villa à Cap d'Ail, plus une villa à Ternay, plus. Donc il avait quand même amassé un beau patrimoine, mais lui, son goût, c'était de dépenser.
Et Anaïs le disait tout à l'heure...
Le fisc, il a eu des petits problèmes avec le fisc.
Eh oui, il a dû négocier en permanence jusqu'à la fin de sa vie. Il ne voulait pas payer ses impôts, et donc il allait négocier. Et il a payé des ardoises, il a négocié à chaque fois million par million. L'argent, pour lui, devait sortir, mais pour son plaisir. Il disait toujours, il y a deux choses inacceptables, la mort et les impôts. Mais j'aurais dû commencer par les impôts.
Tiens, justement, la mort, on va terminer, Christophe Barbier, par une citation que j'aime beaucoup. Il disparaît le 24 juillet 57. Et cette citation, on la retrouve sur la quatrième de couverture de votre livre, Le Monde selon Sacha Guitry. Vous pouvez nous la lire à propos d'un testament.
J'ai déchiré le testament que je venais d'écrire. Il faisait tant d'heureux que j'en serais venu à me tuer pour ne pas trop les faire attendre.
Et ben voilà, c'est du Guitry. Merci beaucoup. Il y a aussi Sa mort l'a fait connaître. Il peut revenir maintenant. On aimerait qu'il revienne, Sacha Guitry, pour nous offrir quelques bons mots supplémentaires. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Christophe,
merci.
C'est donc chez Talendier, Le Monde selon Sacha Guitry.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.